Petites histoires des sciences. Bonjour, nous sommes à Florence autour des années 1600. Nous suivons les pérégrinations d'un des plus grands physiciens de l'histoire, Galilée. Nous cherchons en particulier à identifier l'influence de l'art dans son œuvre scientifique. Aujourd'hui, Galilée contre le maniérisme. Dans le chapitre précédent, nous avons rencontré un Galilée critique littéraire, avec l'Enfer de Dante. Son érudition pour les lettres n'est pas nouvelle. Éduqué dans un milieu culturel riche, ses goûts et ses préférences littéraires ne sont pas inconnus. On sait par exemple qu'il a eu une grande admiration pour l'Arioste et une aversion profonde pour le Tasse. Il compare ces deux écrivains poètes avec des courants artistiques qui ont lieu en peinture. Au début du XVIIe siècle, s'affirme un mouvement artistique en réaction non pas à l'âge d'or de la Renaissance, mais contre le maniérisme de la seconde partie du XVIe siècle. D'un côté, il y a le Caravage, dont nous reparlerons dans le prochain chapitre, loué ou décrié en tant que naturaliste. Et de l'autre, il y a les frères Carache ou Caracci, et leur fidèle ami le Dominicain, loué ou décrié en tant qu'éclectique. Mais ils étaient tous unis dans un même désir de rompre avec leurs prédécesseurs immédiats, les maniéristes. Si l'on compare par exemple la Madone di Foligno de Raphaël, datant de 1511, avec une Madonna d'Annibal Carracci, exécutée 80 ou 90 ans plus tard, on sent une intention artistique commune. Je vous invite à aller sur le site Petites Histoires des Sciences pour voir les œuvres. On y perçoit une tendance à harmoniser les relations entre surface et profondeur. D'un autre côté, vous avez le maniérisme de Vasari, qu'on peut voir dans l'Immaculée Conception, exécutée en 1549, qui diffère à tout point de vue du style de Raphaël, qui est celui de l'âge d'or de la Renaissance, mais aussi de celui d'Annibal Carracci, qui est plus assimilé au baroque primitif. Les formes sont enfermées dans leurs contours, comprimées dans une structure bidimensionnelle dont la compacité interdit le libre déploiement des volumes et de l'espace. Galilée a donc reçu une excellente éducation artistique et littéraire, nous l'avons dit. Il connaît par cœur la plupart des classiques latins. Il a non seulement composé lui-même des œuvres poétiques, mais il a aussi consacré plusieurs mois et même plusieurs années à une annotation d'Arioste, à qui il s'estimait redevable de savoir écrire italien. Il compare ainsi le Roland furieux de l'Arioste avec le Jérusalem délivré du Tasse. En fait, il fera un éloge enthousiaste du premier et égratignera férocement le second. Galilée écrira: quand j'entre dans le Roland furieux, je vois s'ouvrir devant moi une salle des fêtes, une tribune, une galerie royale ornée de 100 statues antiques des plus célèbres sculpteurs, avec une infinité de tableaux d'histoire des meilleurs et par les plus illustres peintres. Mais, à la lecture de Jérusalem délivrée, du Tasse, Galilée a le sentiment de pénétrer dans un cabinet de curiosités rempli d'objets qui, par leur âge ou leur rareté, auraient quelques bizarreries, comme un crabe fossilisé, un caméléon desséché, une mouche ou une araignée gélatinée dans un morceau d'ambre. Bref, il ne voit ici qu'une collection d'objets sans intérêt. On voit que Galilée est un amateur d'une certaine peinture, mais il apprécie aussi la sculpture. Cependant, il donne sa préférence à la peinture. Dans une lettre faite à Ludovico Cigoli, peintre originaire de Florence et qui sera un des amis les plus fidèles de Galilée, il aide son ami, engagé dans un débat sur la supériorité relative de la sculpture et de la peinture. Cigoli demande à Galilée de lui fournir des arguments en faveur de son propre art, la peinture. L'argument classique est que la statue étant en trois dimensions, la sculpture donne à voir davantage le réel que la peinture. Mais Galilée fait remarquer qu'elle nécessite un certain éclairage pour se voir dessiner ses formes alors que la peinture a sa propre lumière. Si le relief dépend du toucher pour la sculpture, la peinture donne à voir à partir d'un plan, celui du tableau, et il y a toute une profondeur grâce à la géométrie du point de fuite et des nuances de clair-obscur utilisées par le peintre. Ainsi, il y a prédominance de l'art de la peinture sur celui de la sculpture pour Galilée. Ce que Galilée défend, c'est la clarté, l'aération, la belle ordonnance des idées. Ce qu'il déteste, c'est la surcharge, les contorsions, l'allégorisme et le mélange des genres propres au maniérisme. Il n'aura de cesse dans son œuvre scientifique de dégager des idées claires, accessibles à tous, où les idées s'ordonnent selon une logique toute mathématique. Ainsi se termine ce volet sur un Galilée critique d'art littéraire, mais plus largement de l'art. Lors du prochain volet, nous poursuivrons notre voyage dans la peinture et nous verrons l'influence du Caravage qui aidera Galilée à comprendre ses observations à la lunette. À bientôt !